Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La fusion entre le constructeur automobile français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler continue d'avancer à grande vitesse. Aujourd'hui, lors du comité de groupe européen de PSA, le projet a été approuvé à une large majorité par les représentants des salariés de PSA et les dirigeants des deux groupes continuent d'afficher leur confiance dans la finalisation de l'opération et la création du numéro 4 mondial du secteur. PSA et FCA suivent un mouvement mondial de concentration qui semble inéluctable sans que l'on mesure encore très bien les conséquences pour les constructeurs et pour les consommateurs. Où va mener la concentration dans le secteur automobile ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Flavien Neuvy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Et Pascal Pennec, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus. Cette fusion entre PSA et FCA ou FCA peut-elle encore ne pas se faire à ce stade d'avancement et surtout avec cette volonté manifeste d'aller très vite, Flavien Neuvy?
Non, j'ai l'impression que c'est une opération qui semble faire l'unanimité, effectivement, que ce soit du côté des salariés, du côté du top management des deux entreprises, et aussi très important, parce que dans ce type d'opération, c'est toujours le cas, les pouvoirs publics, à la fois italiens et français, ont donné leur aval, donc aujourd'hui, on peut dire, sans prendre trop de risques, que c'est une opération qui ira au bout.
Ouais, Pascal Pennec, c'est fait ou quasiment fait, hein.
Légalement, ils peuvent encore revenir en arrière, et justement, ils veulent s'engager dans les prochaines semaines sur un accord qui, là, va les lier, qui ne sera plus rétro-pédalable.
Ils veulent faire ça courant décembre. Oui. Ces dernières années, le marché automobile mondial, c'est un petit peu « big is beautiful ». Pourquoi faut-il être gros dans l'automobile aujourd'hui, Flavien Neuvy?
Eh bien, écoutez, c'est une question à la fois très importante et la réponse est assez simple, au fond. L'industrie automobile devra faire face au cours des prochaines années à de profondes mutations et cela nécessitera des investissements massifs de la part des constructeurs. Bien sûr, la voiture autonome, même si la voiture 100% autonome, c'est pas pour demain matin, mais surtout la transformation environnementale, écologique avec des contraintes de plus en plus fortes. Et donc, les constructeurs doivent investir des milliards, hein, chaque nouveau moteur, c'est environ 1 milliard d'investissements. Et pour pouvoir amortir tous ces milliards, eh ben, il faut vendre beaucoup, 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 beaucoup de voitures. Et c'est pour ça qu'on a cette course à la taille critique.
Mais cette transition vers l'électrique et l'hybridation, peut-être dans un premier temps, ainsi que le véhicule autonome, nécessite des investissements très importants. Il faut les partager, il faut partager le fardeau, Pascal Pennec.
C'est ça. Et le problème, en plus, c'est qu'avec la voiture électrique, 40% de la valeur de ce que sera une voiture électrique, c'est la batterie. Et la batterie, eh ben, elle va venir à partir d'éléments qui seront essentiellement chinois, voire éventuellement en provenance de Corée du Sud. Mais donc, déjà, ils vont perdre une grande partie du bénéfice d'une voiture qu'il faudra restituer, alors que jusqu'à maintenant, bah, des moteurs thermiques, ils les faisaient eux-mêmes, alors, ils contrôlaient tout.
Il y a une dimension de souveraineté qui est importante, en fait, Flavien Neuvy.
Oui, et c'est drôle, parce qu'enfin c'est drôle, on n'en parle jamais en tout cas.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un élément, si vous voulez, on a l'impression que l'Union européenne a fait le choix du 100% électrique, avec notamment la réduction des émissions de CO2 à horizon 2030, qui va obliger, enfin ces objectifs vont obliger les constructeurs à vendre beaucoup, beaucoup de voitures 100% électriques, et comme vient de le dire Pascal Pennec, aujourd'hui la valeur ajoutée, c'est la batterie. La batterie, elle est asiatique, hein. Il y a sur le top 10 mondial des constructeurs de batteries électriques, 7 Chinois, 2 Coréens, 1 Japonais. Donc il y aura un transfert de valeur avec beaucoup d'interrogations, notamment sur l'emploi, que ce soit chez les équipementiers, mais aussi chez les constructeurs.
Est-ce que c'est pour cette raison, la lourdeur des investissements, qu'on a la sensation que Fiat cherche encore plus vite qu'un autre à se marier? Est-ce que FCA est en retard par rapport à d'autres sur les investissements d'avenir, Pascal Pennec?
C'est pire que ça. C'est-à-dire que
ils n'ont pas fait, quoi.
Au moment où Fiat a eu la possibilité de mettre la main sur Chrysler, ils y ont mis. Au début, ça a été une opération qui n'était pas très onéreuse, mais elle l'est devenue au fil du temps pour qu'ils aient 100% du capital. Et ça a pris absolument tout leur argent, aux dépens de tout ce qui était italien dans le groupe. Donc autant les marques Fiat, Alfa Romeo et compagnie ont subi des conséquences, c'est-à-dire que les gammes sont restées obsolètes. Les plateformes qui sont l'élément essentiel de la voiture, la base technique, tout ça, tout est dépassé. Et en plus, le groupe FCA est confronté à un problème, c'est qu'ils doivent redistribuer énormément de dividendes, beaucoup plus que ne le fait PSA et les autres constructeurs. Donc ça veut dire que tout cet argent qu'ils gagnent, il est rendu à des actionnaires au lieu de servir à la recherche et développement.
Flavien Neuvy, bon, on va le dire clairement, Fiat cherche de l'argent frais, c'est ça qui se passe?
Bah, écoutez, même du temps de Sergio Marchionne, Fiat afficher clairement sa volonté de se rapprocher d'un autre constructeur. C'est une volonté qui est affichée depuis longtemps, bien sûr, comme vient de le dire Pascal Pennec, parce que l'entreprise n'a pas investi, notamment dans son plan produit, donc des gammes vieillissantes du côté italien. Du côté américain, c'est plutôt pas mal, parce que Jeep se porte bien, notamment, mais c'est vrai que depuis très longtemps, les dirigeants de Fiat annoncent que en dessous de 6 millions de voitures par an, on n'a plus la taille critique aujourd'hui pour répondre à tous les enjeux. Et donc, c'était pas une surprise. Il y avait eu même des rumeurs de rapprochement, à un moment donné, avec Renault. Ça ne s'est pas fait. Ça se fait avec PSA aujourd'hui.
Aussi bien Fiat Chrysler que PSA disent que cette fusion se fera sans conséquence sur l'emploi. Est-ce qu'on peut y croire, au moins dans un premier temps, Pascal Pennec?
Non, clairement non. On l'a vu, même s'ils disent... ils sont contentés de dire qu'il n'y aurait pas de fermeture d'usine. Alors ça rassure les employés, mais si vous regardez le modèle économique qui a été mis en place par Carlos Tavares, le patron de PSA depuis qu'il est arrivé, c'est de réduire chaque usine pour pas enfermer, parce que le choc dans l'opinion
est oui, notamment c'est pour le symbole.
Pour le symbole, il ne reste plus qu'une seule chaîne d'assemblage dans une usine, alors que auparavant il pouvait y en avoir deux, même trois. Et donc ça sauve les apparences, mais quand on regarde les conséquences sur l'emploi, elles sont terribles. Chez PSA, regardez, en France, le groupe a perdu la moitié de ses salariés en l'espace de 15 ans. Quand ils ont racheté Opel, c'est 6 000 salariés qui ont été remerciés. Et malheureusement, quand on voit à quel point les usines italiennes sont en sous-capacité, mais c'est pire que ce qu'on peut imaginer, il y a du souci à se faire pour les 60 000 employés.
Oui, Flavien Neuvy, il y a quand même beaucoup de capacités de production et d'implantation en Europe, hein, si on additionne toutes les marques des deux groupes, entre Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Citroën, Opel, ça fait beaucoup, beaucoup d'usines.
Oui, ça fait beaucoup d'usines pour ce nouveau groupe, mais ça fait beaucoup d'usines tout court en Europe. Le marché européen, aujourd'hui, il est à un niveau très élevé, mais il est, à mon avis, il a un potentiel de croissance qui est assez faible. Ce qui veut dire que les usines, pour certaines d'entre elles, c'est très variable en fonction des marques, en fonction des sites de production. Il y en a qui tournent extrêmement bien, mais il y en a qui sont très nettement en dessous de leur capacité de production. Et en fait, si le marché devait tousser un petit peu, je parle même pas de s'effondrer comme on a pu le connaître il y a 10 ans, mais s'il devait effectivement baisser un petit peu, là se poserait un certain nombre de questions. Après, ce qu'il faut quand même rappeler dans le cas de, par exemple, c'est que quand un groupe va bien, et c'est le cas de PSA financièrement, il peut y avoir des réductions du nombre de salariés avec des plans de départ volontaire, par exemple, ou des non-remplacements de départ à la retraite. Ce qui veut dire que sur le plan social, ce ne sont pas des licenciements secs. C'est aussi ça qui peut permettre, finalement, entre guillemets, si je puis dire, de limiter la casse.
Sur le plan industriel, l'Espagne n'a pas de constructeur national. Seat, la marque espagnole historique, elle appartient à Volkswagen. Mais l'Espagne a une production automobile supérieure à celle de la France.
Nettement.
C'est la marque ou l'implantation industrielle du secteur qui compte, Pascal Pellet?
Ce qui compte sont les coûts de production, et l'Espagne a réussi à tirer son épingle du jeu il y a très longtemps. Et quand on regarde aujourd'hui d'où viennent les voitures françaises, entre guillemets, on s'aperçoit que surtout l'Espagne, même s'il y a beaucoup d'autres pays maintenant, mais l'Espagne constitue un maillon essentiel pour les marques françaises.
Il y a encore quelques années, Flavien Neuvy, oui, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, mais ce qu'il faut simplement rappeler, c'est qu'effectivement, la France a perdu en termes de production automobile, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Hein. Sur ces 20 dernières années, l'Allemagne, elle a maintenu son niveau de production. Mais il faut aussi rappeler que sur les modèles d'entrée de gamme, les citadines, hein, il y a Clio 208, etc., sont des prix qui sont relativement faibles. Alors, c'est des prix d'entrée de gamme. Et là-dessus, si vous avez une différence de coût de production de quelques centaines d'euros, et c'est la masse salariale qui fait la différence, eh ben, ça fait toute la différence, parce que les constructeurs gagnent, au fond, assez peu d'argent sur ces modèles.
Il y a quelques années, je reprends, on disait que le secteur automobile en France, ça représentait 20% de l'emploi total entre les constructeurs, les sous-traitants et tout ce qui s'agrège autour. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 1 à 10. Enfin, de 10% des effectifs si on prend l'écosystème global. Parce que l'emploi industriel a reculé. Après, vous avez tout ce qui est, tous les emplois qui ne sont pas délocalisables, c'est-à-dire les emplois en concession automobile, la réparation automobile. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien aussi avec la voiture électrique, parce que si demain on a beaucoup, beaucoup de voitures électriques, la voiture électrique, c'est une voiture qui n'a plus de moteur et qui ne nécessite pas du tout le même entretien, même réparation. Et là, évidemment, ce sont même des emplois qui sont dans les ateliers aujourd'hui, qui pourraient, être menacés, tout simplement, si on avait vraiment beaucoup de voitures électriques.
Est-ce qu'il n'y a pas, et je vais vous poser la question à tous les deux, un chaînon manquant dans cette association qui est présentée comme parfaite, hein, et un manque important, le plus peuplé et le plus en croissance des continents, c'est-à-dire l'Asie. Il y a pas grand-chose, ni chez Fiat, ni chez Peugeot, en Asie, Pascal Pennec. Même si un des PSA, actionnaires de référence de PSA, un actionnaire chinois.
PSA, c'était son premier marché il n'y a pas si longtemps que ça, la Chine. Mais malheureusement, il se fait tailler des croupières depuis 3-4 ans, à tel point qu'il s'est posé la question, est-ce que PSA allait sortir de Chine ? Bon, maintenant, la vraie menace, c'est... Les constructeurs chinois vont bientôt être prêts pour conquérir le monde. Et c'est pour ça, on l'évoque pas souvent, mais pourquoi est-ce que les constructeurs occidentaux ou asiatiques se réunissent, se rejoignent et fusionnent? C'est aussi parce qu'ils s'attendent à cette déferlante.
Oui, on prépare une espèce de politique industrielle à hauteur d'entreprise et non pas des États, Fabien Levy.
Oui, alors, les constructeurs chinois, il faut bien comprendre une chose, c'est que pendant 20 ans, ils ont été occupés par leur marché intérieur. Au début des années 2000, le marché chinois, c'était 500 000 voitures par an, 500 000 voitures neuves. Aujourd'hui, on est à 25 millions. Donc, ils ont eu assez de travail sur leur marché domestique, à la fois pour progresser sur le plan technologique, avec des joint ventures, avec les constructeurs internationaux, les grands constructeurs mondiaux. Ils ont progressé techniquement, ils font des belles voitures, sûres, pas chères, et aujourd'hui ils sont à l'étroit dans leur marché. Donc ils vont aller conquérir le monde, c'est une certitude. Ils sont déjà présents en Russie, en Amérique du Sud, l'Europe c'est pour bientôt.
L'ensemble PSA, FCA compte 14 marques, est-ce que des disparitions, des rationalisations sont envisageables, voire indispensables? On sait que Chrysler, par exemple, aux États-Unis actuellement, c'est 60 000 voitures, la marque Chrysler.
Il y a quelques marques qui sont évidemment... pas très bien portante. Il y a Chrysler, vous l'avez dit, il y a Lancia, bien que, alors c'est totalement incroyable, mais aujourd'hui, Lancia, qui ne vend qu'un petit modèle et uniquement en Italie, arrive à vendre plus de voitures qu'Alfa Romeo dans toute l'Europe. Donc, on est en train de se dire qu'il y a quelque chose qui marche à l'envers un peu plus dans ce groupe, mais l'intérêt, quand même, chacune a quand même une image, un positionnement qui est un peu différent. Donc, aujourd'hui, conserver une marque, c'est pas très compliqué, puisque dans une même usine, vous pouvez construire pour 5 marques différentes. Ce sont les mêmes voitures à la base, c'est juste l'esthétique qui change.
Avec un tel mouvement de concentration, est-ce qu'on va continuer vers la voiture personnalisable à outrance, comme c'est le cas actuellement? On peut choisir la couleur de son rétroviseur, de ses bas de caisse, de la couleur du toit, ou est-ce qu'on va vers plus de standardisation? Peut-être pas que des voitures noires, comme le disait Henry Ford, Flavien Neuville, mais est-ce qu'on va revenir un petit peu en arrière?
Non, ce sera toujours possible de personnaliser dans une certaine mesure. Moi, ce qui me frappe beaucoup quand même sur ces dernières années, si on parle des voitures qui sont vendues, c'est qu'il y a quand même eu une montée en gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je me souviens, alors je ne suis pas tout jeune, mais quand j'ai acheté ma première voiture, c'était il y a 25 ans, je me souviens, on me proposait des options. On me disait l'option, machin, est-ce que vous voulez vite électrique, est-ce que vous voulez ceci, cela. On vous disait oui ou non, et ça faisait augmenter le prix du véhicule. Aujourd'hui, c'est des packs. On vous propose le pack, et dans le pack, il y a tout. Et donc, en fait, en quelque sorte, on a eu une montée en gamme. Qualitatif, bien sûr, parce que les options, elles sont agréables quand on les utilise au quotidien, on les utilise pas toutes. Mais ça a eu une conséquence, c'est que ça a tiré les prix vers le haut, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins d'acheteurs de véhicules neufs en France. Les ménages qui achètent une voiture neuve chaque année, c'est 3% des ménages, c'était 7% au début des années 90.
Oui, Pascal Pennec, cette concentration ainsi que la lourdeur des investissements, est-ce que ça va pas contribuer à augmenter fatalement le prix des véhicules?
Pas forcément, dans la mesure où, bon, c'est vrai que s'il y a concentration du marché, il y a toujours risque que les prix augmentent, mais en même temps, la concurrence mondiale est tellement forte, et surtout avec l'arrivée de nouveaux acteurs qu'on ne connaît pas encore en Occident, mais en l'occurrence, il y a 100 constructeurs chinois qui existent. Hein. Alors, tous ne vont pas se lancer à la conquête du monde, mais il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 qui sont déjà très très forts, et bon, les prix seront forcément tirés vers le bas grâce à eux.
Flavien Neuville, vous partagez cette analyse?
Alors, c'est vrai que la concurrence...
J'ai vu que Carlos Tavares disait que le prix des voitures va augmenter.
Alors, effectivement, la concurrence va exister malgré la concentration. Donc, il y aura toujours ce phénomène de concurrence. Mais les prix vont augmenter pour une autre raison. C'est que les normes environnementales à respecter nécessitent pour les constructeurs de mettre beaucoup plus d'équipements de dépollution. Et ça coûte très cher. Et c'est pour ça que sur certains modèles d'entrée de gamme, on fait plus de diesel, par exemple, parce que ça coûte trop cher à dépolluer. Et donc, on le sait, d'ici 10 ans, les prix des voitures vont augmenter parce qu'il faudra répondre à ces normes.
Est-ce qu'il y a des segments entiers qui sont menacés, les moins rentables, enfin ceux sur lesquels on se bat le plus, hein, par exemple les petites citadines, Pascal Pennec?
C'est ce qu'on entend, et en même temps, c'est ce qui permet de d'avoir des voitures pas trop chères. Donc, je suis assez sceptique. Non, c'est plus les véhicules les plus gros. Aujourd'hui, on est quand même dans une, surtout en Europe, il y a un changement des mentalités très fort avec les jeunes qui regardez ce phénomène qui s'attaque aux baby boomers en disant ces gens-là n'ont pas arrêté de polluer et ce sont eux qui achètent des voitures aujourd'hui. Peut-être qu'il arrivera un moment où ils auront un petit peu honte, c'est des faits recherchés, et ça finira par se ressentir dans les ventes de véhicules haut de gamme.
Et pourtant, très rapidement, Flavien Neuvy, ce qui se vend le mieux actuellement, ce sont des grosses voitures, là, les SUV.
Oui, c'est pas rationnel, parce que ce sont des voitures qui coûtent plus cher et qui consomment plus. Et donc, on peut dire encore une chose, pour conclure, c'est que l'achat automobile, ça n'est pas qu'un achat rationnel, il y a aussi l'aspect coup de cœur.
Merci Flavien Neuvy, merci Pascal Pennec d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce, Simon Carteret et... Fabrice Violet aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr. Tout de suite, on part à Madrid pour le match Real Madrid-PSG à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.